C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Nos deux invités, les principaux candidats à la mairie de Montréal, Valérie Plante est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Denis Coderre, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, donc, c'est votre 11e débat. On faisait
oui,
le décompte
ça,
pendant la pause.
Oui.
Et c'est le dernier avant les deux journées de scrutin. Beaucoup de sujets. Je vais commencer ce matin par le dossier du PDG d'Air Canada et ses propos hier sur le fait de vivre à Montréal sans parler français, puis surtout de pas avoir l'intention de l'apprendre. Votre réaction, Mme Plante?
Ben, c'est absolument inacceptable. Je pense que ça autant il y a beaucoup de Montréalais d'origine anglophone qui apprennent le français, ils s'installent ici, puis pour eux, ça fait partie de leurs valeurs. Mais là, quand on voit un PDG, donc qui a une influence, puis qui refuse, qui méprise le français comme il le fait, pour moi, ça a pas sa place.
C'est le social à Montréal en plus. Il n'en chicanera pas. Hein. C'est inacceptable. Puis en plus, ils sont contents d'accepter nos impôts. Alors, je pense que dans ce sens-là... Là,
mais vous attendez à
on
quoi?
On va l'aider, on va y faire un coffee, on va y apprendre le français.
Mais une fois que le PDG a dit ça, vous attendez à quoi d'Air Canada?
Des excuses. Non, des excuses. Je veux dire, au prix qui est payé, il doit avoir un bureau de relations publiques pas pire. Là.
Mais moi, en fait, ce que je trouve déplorable, c'est Air Canada, on le sait, là, d'année en année, ça continue. C'est même ce qu'il disait, le PDG, bah, ça va faire une tempête, puis après ça, on passe à autre chose. Moi, je trouve ça problématique que Air Canada fait juste dire, bon, on attendra la prochaine tempête. Donc, oui, des excuses, je suis d'accord avec M. Coderre, mais aussi d'avoir une vraie solution, qu'ils apprennent le français. Ça n'a pas de sens d'habiter à Montréal, puis de même pas avoir le minimum, de même pas daigner dire les mots d'usage en français.
Le bilinguiste, c'est pas un francophone qui comprend l'anglais.
OK. Alors, vous entendez parfaitement là-dessus.
Ah, ouais.
Ça, c'est clair. Bon. Maintenant,
ça commence bien.
On va aller avec le deuxième. Là, je suis pas sûr que vous allez vous entendre. Pourquoi avoir attendu avant de rendre publique la liste de vos clients, d'avoir partiellement hier, puis finalement la liste complète? Ouais. Alors, pourquoi avoir attendu?
Ben, écoutez, dans le secteur privé, vous le savez, il y a des ententes de confidentialité. Là. C'est pas politique. Et puis, d'ailleurs, la preuve que ça a pris un certain temps, le dernier, c'est arrivé hier soir avec Transcontinental. Donc, oui, des fois, ça peut donner l'impression qu'on attend trop. Mais moi, je pense qu'il faut respecter nos contrats. Et puis, de toute façon, au bout de la ligne, vous avez le conseiller en éthique. À chaque fois qu'on se fait élire, on passe par là. Et puis, j'aurais pu passer. Mais moi, je suis content qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir la liste complète, tout simplement.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben écoutez, ce que j'en pense, c'est que pour moi, c'est problématique que M. Coderre, qui se présente à la mairie, qui savait qu'il allait se présenter à la mairie, ait accepté, par exemple, un contrat de Transcontinental qui, on le sait, avait participé à une consultation sur l'avenir du Publisac. Et quand vous avez accepté quand vous avez dit que vous reveniez dans la course, c'est à ce moment-là que vous auriez dû faire preuve de transparence parce que on s'entend, Transcontinental a un rôle à jouer dans les politiques publiques. Alors, quand on veut devenir maire, la population veut savoir quels sont les liens qu'on a eus avec le privé. C'est pas d'avoir travaillé au privé le problème, c'est d'attendre, d'être acculé au pied du mur, de dire bon ben finalement je vais le dire. Mais moi je suis très très embêtée pour Transcontinental parce qu'il faudrait dire un élément qui est important. Francesco Mieli, qui est le président de la campagne de M. Coderre, était le vice-président de la commission sur l'environnement où on a parlé du Publisac et où Transcontinental a dépensé tant d'argent pour plaider sa cause. Les Montréalais veulent savoir qu'est-ce que ça peut cacher. Alors, il faut faire preuve d'intégrité là-dedans.
Je sais que Mme Plante a avoué qu'elle était loin du secteur privé. Là. La réalité, c'est que Transcontinental est une entreprise québécoise familiale exceptionnelle. Il y avait des enjeux aussi pendant la pandémie. La preuve, le dossier de Publisac, il n'a pas été complété. Mais pour moi, ce qui est important, c'était de se dire que pour l'Est de Montréal, il y avait une entreprise qui voulait installer une usine. Donc, c'était soit dans l'Est de Montréal ou soit aux États-Unis. Et puis, j'ai donné des conseils stratégiques en matière de l'économie circulaire. Et puis, il y a eu de toute façon, vous parlez de Francesco, il y a eu de toute façon un rapport unanime. Alors, on ne doit pas chicaner.
Mais il n'y a pas quand même un enjeu. C'est-à-dire que les gens pour qui vous avez travaillé, Cogir, ils sont dans l'immobilier. Mm-hmm. Transcontinental, il y a les sacs, puis il y a d'autres enjeux. Est-ce que quand on a été consultant pour des entreprises comme ça, avec lesquelles il y a des enjeux à la Ville de Montréal, il n'y a pas un problème? Il n'y a pas une ligne directe qui est établie
y
là, entre...
Problème. Il n'y aura pas de problème, M. Arcand. Dans la mesure, de toute façon, je l'ai dit hier, au niveau de COGIR, ils sont dans l'immobilier. Quand il va y avoir des dossiers qui vont toucher la ville et COGIR, je vais me retirer. Comme j'ai fait à l'époque, j'avais aucun revenu pécunier par rapport à une concession automobile, mais vu que le propriétaire est un ami qui avait fait des soumissions pour le matériel roulant, tu te retires. Tu sais, à un moment donné, tu as le droit de gagner ta vie, puis tu as un travail à faire en ce sens.
On a le droit de gagner sa vie, mais vous avez choisi, tu sais, parce que là-dedans, vous êtes maître de votre destin, là. Vous avez quand même choisi jusqu'à la dernière minute de travailler pour Transcontinental, qui a dit clairement que si on enlevait le Publisac, il n'y aurait pas d'usine dans l'Est. Alors au final, là, moi, je trouve ça problématique de se présenter à la mairie pour avoir et d'avoir travaillé comme consultant pour une entreprise qui donne des appels d'offres qui influencent les politiques publiques de Montréal.
Bon, écoutez, ça fait 40 ans que je suis en politique, là. Moi, je pense que de toute façon, Madame Plante aime beaucoup parler de ça parce que pendant ce temps-là, on parle pas des enjeux puis on parle pas de son propre bilan. Alors, c'est de bonne guerre, mais je pense que les gens comprennent que c'est pas, y a pas un problème d'intégrité.
La seule personne à blâmer là-dedans, M. Coderre, c'est vous.
Et que tout ce que j'ai fait, je l'ai bien fait puis je vais continuer à le faire. Et puis, je pense que l'important, les Montréalais veulent savoir pourquoi qu'on on a une ville moins sécuritaire, qui est plus sale. Et puis, vous avez vu encore dans le village ce matin, on a parlé de problèmes de sécurité majeure. Et puis, Mme Plante est la mairesse de Ville-Marie. Ben, c'est ça la réalité.
En fait, pendant la campagne, tout ce qui touche la sécurité, la transition écologique, l'habitation, parce qu'on pourrait en parler de l'habitation. Puis
mais
vous
si vous permettez, je vais juste reprendre, parce que j'avais une question là-dessus à la suite de témoignages. J'ai des commerçants qui me parlent, notamment dans ce coin-là, d'édifices abandonnés, des gens qui squattent, ils appellent la ville, ils appellent la police, il n'y a rien qui se passe. Un restaurateur, là, il vient de perdre son local, il y a eu un incendie majeur vendredi dernier. Puis on pourrait soulever des problèmes dans d'autres arrondissements de Montréal. Vous allez faire quoi pour protéger ces commerçants-là?
Bien, en fait, il y a plusieurs éléments qui ont été mis en place, que ce soit au niveau du certificat d'occupation. C'est travailler aussi avec les propriétaires pour qu'ils s'occupent de leur bâtiment, parce qu'il y en a qui décident de le laisser se délabrer jusqu'à un point où il faut le démolir. Alors, c'est vraiment de resserrer les règles. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 4 dernières années. Dans le village, ça a été difficile, parce que vous le savez, il y a eu beaucoup d'enjeux de cohabitation. Tout le monde était d'accord pour aider les plus démunis. Mais c'est vrai que ça a amené quand même un problème de cohabitation.
Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on parle comme voici ce que je vais faire si je deviens mairesse. La réalité, c'est que pendant 4 ans, la ville est moins sécuritaire, puis on n'a pas travaillé en conséquence. Puis vu qu'on est en campagne électorale maintenant, c'est facile de dire je vais avoir des engagements, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là? Quand on va sur le terrain puis qu'on parle avec les gens, on se rend compte, comme Mme Brière là, pour le dossier d'Alexis, Montréal n'est pas exemplaire sur le plan bureaucratique. La main gauche, c'est pas ce que la main droite fait.
Mais vous savez ce qui est fascinant, c'est que M. Coderre...
Mais je vous ai laissé parler, Mme Plante, c'est à mon tour. Moi, j'ai pas de problème, mais je veux dire, c'est parce que la réalité est là. Je veux dire, il faut garder les faits, et les faits, c'est qu'on s'en est, on s'occupe pas des commerçants.
Madame Plante.
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va s'entendre sur plusieurs enjeux, mais au-delà des phrases creuses, M. Coderre, vous amenez jamais rien de concret. Comme là, vous parlez que ce soit du village, mais qu'est-ce que vous proposez? J'aimerais ça que, comme j'ai répondu concrètement, pourriez-vous répondre concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire pour aider les commerçants?
Ah, je suis content parce que justement, étant donné qu'on est proche de ce milieu-là, puis on leur a parlé, on a mis en place un plan au niveau des SDC, notamment en matière de propreté. On va redéfinir la fiscalité, notamment, vous avez parlé des restaurateurs avec raison. Moi, j'ai au moins 7 candidats qui sont chefs ou propriétaires et qui ont vécu la pandémie, puis qui ont vécu la bureaucratie municipale. Donc, on va travailler au niveau de la taxation. On avait déjà à l'époque, et vous en avez profité, où avec notre comité, on a mis en place la taxe non résidentielle à 1% pour les 10 prochaines années. Donc,
est-ce que je peux avoir du temps d'antenne? Parce que, M. Coderre, vous prenez vraiment beaucoup de place, là. Ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est à quel point les promesses qui sont mises de l'avant, c'est des choses qui, sous son administration, M. Coderre, n'a pas mises en place. Alors, si ça n'avait pas été de nous au niveau de la taxation non résidentielle pour aider les commerçants, ça ne se serait pas fait.
Mais là, je me mets en place des auditeurs 2 secondes. Là. Vous dites, lui, il était là 4 ans, il ne l'a pas fait. M. Coderre dit, vous avez été là, vous ne l'avez pas
mais
fait.
Mais non, on le fait. La taxation, c'est nous qui l'avons mis en place, c'est pas M. Coderre. On est rendu avec un rabais de taxe jusqu'à 16 % pour un restaurant comme Schwartz, ça, c'est 1 300 $ de moins sur sa taxation. C'est pas M. Coderre qui a fait ça, c'est nous.
Okay.
Parce qu'au niveau des petits commerçants, des artères commerciales locales, pour nous, ça fait partie de l'ADN de Projet Montréal.
Septembre 2017. On a mis en place, on a pu obtenir la loi du statut de métropole. Et ce statut de métropole a changé la loi des cités et villes, donnant beaucoup plus d'autonomie aux municipalités et avec un pouvoir compensatoire et un pouvoir subventionnaire. Donc, à chaque fois que maintenant, on peut faire des annonces de ce style-là, c'est à cause du statut de métropole.
Il y a une étude ce matin qui est publiée dans le Journal de Montréal qui dit que Montréal est la ville qui étouffe le plus ses commerçants en taxes foncières. Est-ce que vous reconnaissez que Montréal étouffe ses commerçants?
Ben, c'est pour ça qu'on l'a diminué de 16% pour les petits commerçants. Ben oui, mais on s'entend, quand on est arrivé en poste, la demande traditionnelle là, que tout le monde demandait, c'est de diminuer l'écart entre le résidentiel et non résidentiel. On l'a baissé de 16% dans notre premier mandat, 3 années consécutives, ça touche 90% des commerces. Et là, quand on propose, par exemple, sur les artères commerciales, d'aider les commerçants, les SDC à acheter des bâtiments pour pouvoir les occuper, c'est du très, très concret, puis c'est basé sur les demandes du milieu. On sort pas des choses de notre chapeau, là. C'est vraiment très précis et c'est documenté.
Oui, c'est tout à fait vrai qu'il y a un problème au niveau des commerçants. C'est pour ça qu'avec cette capacité compensatoire et subventionnaire, on est capable de faire des choses. Il faut réévaluer toute la fiscalité, puis avec le fait qu'on l'avait fait au niveau de la taxe non résidentielle. Mais comme par exemple, on a mis sur pied un programme de 25 millions justement pour aider les commerçants, puis on a dépensé juste 8 millions.
Ah, monsieur Arcand, d'ailleurs, c'est intéressant parlant d'argent parce que tantôt, on a passé de sujet, mais j'aimerais ça quand même vérifier un élément, c'est que en date d'aujourd'hui, la campagne finit demain. On n'a toujours pas le cadre financier de monsieur Coderre. C'est la première fois qu'on voit un parti déposé, j'imagine que c'est aujourd'hui ou demain, mais à si près de l'échéance, parce que là, vous parlez de montant, M. Coderre, mais on ne sait pas. On ne sait pas combien ça va coûter. Et moi, je le dis tout de suite, 172 millions, nos promesses. On a hâte de voir
les... On
va
voir le cadre financier dans les prochaines heures, mais ce que je trouve drôle, c'est que de toute façon, quand on calcule le cadre financier de Mme Plante, elle dépense même après son cadre financier, notamment le vu la lumière pour amener 250 policiers de plus maintenant.
Alors, moi, je vous le dis, notre cadre financier, c'est 172 millions de dollars pour les 4 prochaines années. J'ai très hâte d'entendre M. Coderre nous dire combien, parce que M. Coderre adore faire peur aux gens en disant qu'on dépense, alors qu'au contraire, les experts ont dit que notre cadre financier était extrêmement rigoureux.
Alors, je vous laisserai vous chicaner plus tard aujourd'hui.
C'est bon, les cadres financiers. Plus tard.
mais juste vous amener sur un cas qu'on a vu cette semaine d'un enfant de 12 ans qui est lourdement handicapé. Pendant des mois et des mois, ses parents ont tenté d'avoir un permis pour aménager une plateforme extérieure. Il a fallu qu'on en parle.
Oui.
Et la mère nous a contacté hier. Là, tout le monde a appelé en disant, je pensais qu'on l'avait, mais j'ai pas vu votre dossier. Oui. C'est tombé en deux chaises. Comment ça se fait?
Ben, c'est pas acceptable. On s'entend, là. Puis, vous avez fait toute l'histoire. Fait que je vais pas la refaire avec vous, là. Définitivement.
Mais c'est pas le seul cas.
Ben, il y a plein de cas qui fonctionnent bien, mais il y a des cas, un cas comme ça. Puis quand on est obligé de se retrouver devant les médias pour trouver une solution, pour moi, c'est désolant. Je constate que les services de la ville font un excellent travail. Mais une des raisons pour lequel, pendant notre mandat, on a déplacé le plus possible, comment dire, donner des contrats simples via Internet pour laisser des cas complexes comme celui-là se faire. Alors, je suis désolée d'entendre cette histoire-là. Puis, évidemment, il y a eu des conversations parce que effectivement, elle s'est tombée entre les cracks. C'est pas acceptable.
Écoutez, la ville
comment vous allez rendre la bureaucratie plus efficace?
La ville n'est pas exemplaire. On peut penser aussi à M. Claude Varin, là, 70 ans, qui a un problème d'ascenseur parce que ça fait 15 ans qu'il a sclérose en plaque, puis c'est dans Rosemont. Vous avez le problème qu'on voit la lumière quand on donne des permis de terrasse quand dans le plateau Mont-Royal. Vous avez le cas du pauvre Alexis, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça prend une ville exemplaire. Pour ça, ça prend plus de mesures d'imputabilité. On doit redéfinir le service aux clients. Ça n'a pas été fait, mais là, c'est la campagne électorale. Fait qu'inquiétez-vous pas, on va le faire. Moi, je pense qu'on a besoin de changer les modes parce qu'à l'époque, on l'avait fait notamment sur le service du 3-1.
Okay.
Là, faut arrêter de dire je vais le faire.
Ouais.
On ne l'a pas
Madame
fait.
Plante.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des définitivement comment dire, il y a des priorités du côté de Ensemble Montréal. Vous savez qu'il y a des gens qui présentement la crise du logement, c'est l'enjeu numéro un des Montréalais. Eh bien tous les arrondissements de d'Ensemble Montréal, aucun n'ont mis en place des règlements pour les rénovictions et M. Coderre a même dans son équipe un flipper professionnel qui met à mal plein de résidents qui arrivent même pas. Alors avant même de parler de permis, j'ai envie de vous dire que les gens ils ont envie de se loger, M. Coderre, puis à ce niveau-là
si...
Vous êtes extrêmement mal placé avec vos possibles conflits d'intérêts.
Madame Plante, c'est que moi, je pense au jeune Alexis, là. Madame Brière, elle veut des réponses. Elle veut pas se dire, elle va vous donner une tape dans le dos parce que les élections s'en viennent. Puis si Paul Arcand parle pas, ça marche pas. Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est de répondre aux questions. Puis les gens qui sont déjà dans leur logement, s'ils ont cette capacité-là de pouvoir vouloir rester ici, qu'est-ce qui va arriver là s'il n'y a pas de permis? C'est ça,
les... Je vais conclure avec quelques questions rapides qui supposent des réponses pas trop longues.
Parfait.
OK. On a vu encore des chiffres qui montrent l'exode de familles vers les couronnes de Montréal et parfois la deuxième couronne. Un, avez-vous l'intention d'aller chercher des revenus dans ces couronnes, de taxer davantage les gens qui ne vivent pas à Montréal? M. Coderre?
Ce qu'on a besoin, c'est un leadership au niveau de la CMM. On avait de toute la question de l'écofiscalité. Il y a la question aussi de comment on peut, comme à Londres, au niveau du centre-ville. Donc, nécessairement, on a besoin d'une gouvernance accrue. Et pour ce faire-là, c'est pas de travailler à vase clos comme le 20-20-20. C'est que tout le monde doit le faire.
Moi, ma question, c'est est-ce que vous voulez chercher plus de revenus dans les poches des gens des couronnes?
Moi, oui, ce que je veux, c'est qu'on contrôle les dépenses avant parce qu'on a dépensé 1 milliard de plus.
C'est d'aller chercher plus de revenus, entre autres, au niveau du transport collectif à l'extérieur des couronnes pour nous aider la région métropolitaine, parce que c'est seulement nous qui, entre autres, c'est une grosse facture pour le transport collectif.
OK, je poursuis avec vous. Pour les 4 prochaines années, il va y avoir plus, moins ou autant de chantiers à Montréal?
Je pense qu'il va, au niveau de la ville, il va en avoir moins. On les a baissés de 40%. Par contre, les chantiers privés, je pense qu'il va en avoir plus parce que ça construit à Montréal et ça montre pourquoi notre économie va si bien.
Donc, autant?
Oui, je pense.
Probablement.
Ben, écoutez, c'est dans la gestion des chantiers. Je dis, la réalité, c'est qu'on a promis
c'est
la mobilité
et
tout ça. On ne voit que.
La question, c'est est-ce que vous pensez que. Devenez maire de Montréal, est-ce qu'il y a plus, moins, autant de chantiers?
J'espère qu'il y en ait plus, mais j'espère qu'il y en ait mieux, qu'on fasse les choses correctement et adéquatement.
OK.
Alors ça se fait, mais ça, il faut connaître le dossier, puis il faut connaître le travail qui doit se faire sur le terrain.
OK, vous avez été maire de Montréal, vous êtes la mairesse de Montréal, 4 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez retenu, d'abord, M. Coderre, de votre expérience? Et vous dites, ça, si je retourne à la mairie, il faut que je change une des façons de faire que j'avais à l'époque.
Oh, c'est sûr que vers la fin, tu as l'air trop arrogant, puis il faut que tu démontres une distinction entre la détermination et l'arrogance, mais je m'excuserai jamais. On a besoin de ramener le sens de la métropole, parce que pour l'instant, on a
l'air
un village.
Pour répondre, parce que c'est pas, là, encore une fois, vous me demandez une réponse concrète, moi, je veux encore plus consulter les citoyens puis faire des retours sur les consultations pour que les gens se sentent partie prenante, comme on le fait, entre autres, avec le budget participatif. Ça, pour moi, c'est un apprentissage.
Des 4 années que vous venez de passer au pouvoir.
OK. Parce qu'il faut être capable de faire l'introspection et se questionner. Personne n'est parfait, mais je pense qu'on doit aspirer à être toujours une meilleure personne, une meilleure mairesse.
OK. Sur une échelle de 1 à 10.
Ah, ça, c'est la question. Là,
de temps en temps, il faut la poser.
Est-ce que le Canadien fait les séries?
Non, ça, c'est pas. Mais sur une échelle de 1 à 10, Montréal, la propreté, vous donnez quelle note?
Ah, la propreté, moi, je dirais un 7.
7.
1.
Un.
Oh my God.
La ville est sale. On a besoin de s'assurer qu'on puisse faire. Tout le monde en parle. Partout dans tous les arrondissements.
Quel message on envoie aux touristes? Quel message on envoie aux étudiants? Je trouve ça tellement irresponsable de votre part. La ville est dangereuse. La ville est sale. C'est incroyable. Je trouve ça déplorable.
OK. Sur la police, est-ce que là, je comprends que vous êtes à la même place tous les deux d'augmenter? Non?
Non,
le nombre de policiers, vous êtes à la même place.
Oui, mais c'est là où ça s'arrête parce que notre plan, nous, on n'a pas juste donné un nombre de policiers sans dire où est-ce que ça irait. Communautaire, ELTA, groupe criminalisé, nous, c'est très précis. Le monsieur Coderre, c'est plus abstrait.
C'est plus abstrait. On a un plan qui a été salué par tout le monde. Écoutez, je salue votre vocation tardive parce que dans le fond, vous êtes un parti pour le désarmement puis le définancement.
Ah, voilà, là, on revient à ça. À chaque fois, on revient à ça.
Vous avez où le prospère, vivez avec.
Mais c'est vous qui avez définancé la police. Ça a été réglé ici, monsieur Arcan, monsieur Coderre.
La question, c'est que on a un problème de policiers, il y en a moins qu'avant. Deuxièmement, on a besoin d'investir davantage au niveau de tout ce qui touche le communautaire. On a besoin de travailler pour qu'on puisse assurer qu'il y a les outils propices. Alors nous, on a l'écosystème pour le faire.
C'est une question rapide, une réponse rapide.
La crédibilité
rapide.
Pour le régler, M. Arcan.
OK. on a vu la liste des demandes de l'agence métropolitaine.
Oui.
Quand Québec dit, allez préciser quelles sont vos priorités. Trouvez-vous d'abord que de présenter 57 milliards de projets, ça a de l'allure quand on sait qu'un gouvernement doit choisir quand même?
Bien, en fait, le travail était fait en bonne et due forme par la RTM sur laquelle siègent des indépendants puis des élus. Et le gouvernement nous a appuyés, nous a suivis tout le long. Alors, c'est sûr que quand on a présenté le plan, on a été un peu surpris que le gouvernement du Québec nous dise, ah ben finalement, faut refaire un autre tour de roue. Mais on travaille avec eux. Puis okay. Au final, je constate que la région métropolitaine, quand il n'y a pas eu d'investissement depuis 25 ans majeur, on est en rattrapage. Alors, c'est important.
OK.
Bien, M. Arcan,
oui.
Le maire de Montréal siège à la RTM. Il est président de la CMM. Alors, à un moment donné, il faut démontrer du leadership puis assumer en conséquence. Alors, c'est sûr que quand...
Pouvez-vous répondre
57,
à la question, monsieur?
Non, mais avec 57,
Coderre?
Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de sens, OK.
Hein? Je veux dire, on se trompe de couleur de ligne de métro trop souvent. Là.
Quelle est la priorité, selon vous, pour Montréal, que le gouvernement du Québec devrait avoir en tête? S'il y en a une, il ne faut pas en avoir 12, là, mais une priorité. Vous dites ça, là, je dis à François Legault, là, ça, là, pour Montréal, c'est ma priorité. Ce serait quoi?
C'est l'habitation, parce que le gouvernement du Québec n'a pas réinvesti en logement social 2 ans d'affilée. Il faut pouvoir loger notre monde pour garder de la mixité dans nos quartiers.
On a les fonds, on a les pouvoirs pour le faire en matière d'habitation. Au niveau du logement social, de toute façon, vous avez une entente Québec-Canada.
Mais ma question, mais c'est sur Québec, la sécurité. Là. Vous êtes à François Legault, ma priorité comme maire.
C'est la sécurité, puis c'est la ligne 2.
Sécurité. Bonne fin de campagne à tous les deux.
Merci beaucoup, M. Arcan.
Et on va suivre ça avec intérêt jusqu'à lundi matin.
Ben, merci, M. Arcan.
Merci, bonne journée à tout le monde.
Valérie Plante, Denis Coderre, c'était notre tour de piste sur les élections à Montréal.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine. L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
L'actualité publie un article écrit par Marie-Hélène Proulx qui a en fait recueilli les propos d'Antonin Mousseau-Rivard, qui est le chef propriétaire du restaurant Le Mousseau, à qui on parle assez souvent, on l'a vu dans la période de pandémie, et qui fait un peu une analyse de son milieu de travail, de son industrie, et de façon assez détaillée, pour nous dire que c'est peut-être la dernière chance qu'il accorde à sa passion pour la cuisine. Il est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va si mal que ça, dans la restauration?
Écoutez, c'est il y en a pour qui ça va très bien, il y en a pour qui ça va mal. C'est vraiment dur de séparer les situations, parce que pendant la pandémie, il y en a pour qui, il y en a qui en ont profité beaucoup, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent, là, on en a parlé souvent, les places à poulet ou les places à pizza, puis à pâtes, les places qui font beaucoup de rendement, en fait, sur ce qu'ils vendent. Donc, je veux pas dire que c'est un milieu qui est dévasté de tous les côtés. C'est un milieu qui a énormément de problèmes, qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on fasse changer certaines choses. Mais moi, il faut comprendre que je prends position dans ma partie qui est vraiment la position gastronomique.
C'est sûr.
Donc, je veux pas parler dans le nom de tous les restaurants ou quoi, au nom de tous les restaurants. C'est vraiment pas ça mon but. Mon but, c'est de dresser un portrait vrai et réaliste de ce que c'est d'avoir cette passion pour la gastronomie et des coûts qui viennent avec.
Parce que l'image qu'on a souvent, c'est que quand le prix d'un plat est élevé, c'est que la marge du propriétaire est élevée.
C'est tout le contraire. C'est plus, moins c'est cher, plus les marges sont élevées. Donc, c'est vraiment, on prend des exemples comme des rôtisseries ou des affaires comme ça. Je veux dire, les marges sont énormes sur ce qu'ils font. Tandis que plus on monte dans les prix, ben, moins on peut faire le fameux 3 fois, là, qui est habituellement la règle de j'achète quelque chose à un prix, je le vends 3 fois le prix. Ça devient de plus en plus dur, puis la gastronomie, il faut comprendre que c'est un luxe. J'en suis conscient. Je parle pas ici de la nourriture, de manger, de nourrir les gens. Je parle de ce qui va au-dessus de ça, des expériences. Des gens qui veulent se payer un repas chez nous, c'est parce qu'ils recherchent quelque chose. C'est pas on s'est levé un jeudi matin, puis on s'est dit, on va-tu manger au Mousseau à soir? T'sais, ça vient avec tout ça. Puis je pense que dans mon texte, le fond en gros, c'est de dire, écoutez, on aime nous prendre en image, dire, regardez les restaurants qui rayonnent partout dans le monde et tout ça, mais on nous aide pas au même titre que plein de festivals ou plein de. Moi, je pense qu'il manque d'intérêt quand vient à parler de la gastronomie et du rayonnement que ça
mais
donne.
Si je prends la période avant la pandémie.
Oui.
On a vu là, les restos de gastronomie s'afficher puis d'avoir du rayonnement puis d'attirer du tourisme à Montréal puis bon Joe Beef puis Martin Picard puis on peut tous les nommer. Qu'est-ce qui a fait que le portrait a changé? Juste la pandémie?
Ben écoutez, la pandémie a été en fait le moment où est-ce qu'on a pu s'arrêter. La restauration aurait jamais arrêté comme elle a arrêté pour qu'on puisse s'y attarder, prendre un recul puis regarder, dire les problèmes sont ceux-ci, ceux-là et d'essayer de les régler. Donc ça a un peu aidé. Puis c'est sûr que le fait que le tourisme a chuté, ben nous, pour nous, c'est presque 25 à 35 % là, de notre clientèle. Donc moi, ce qui m'inquiète un peu en ce moment, c'est le temps que ça va prendre. Moi, c'est bien beau, j'ai un appui total des Montréalais, des Québécois qui viennent chez nous, qui me disent vraiment là, qui vont continuer à venir, mais à un certain point, on va avoir besoin du tourisme aussi. Et puis moi, je parle du fait que avant que la crise arrive, ben ça fait des années qu'on peut prouver que les restaurants, certains restaurants de Montréal, à peu près une dizaine de restaurants de Montréal peuvent être responsables d'une grande partie du tourisme, parce que le tourisme maintenant c'est du tourisme gastronomique, il y en a beaucoup de gens qui vont se dire hey on va à Montréal, on réserve au Pied de Cochon, au Toqué, au Mousseau, tu sais, puis après ça ils se prennent un hôtel, un Airbnb, ils vont voir un show, tu sais, on fait partir du tourisme puis on a l'impression de ne pas être épaulé là-dedans parce que comme vous l'avez bien dit tantôt, les gens ont l'impression qu'on fait de l'argent, les grands restaurants, mais on n'en fait pas. C'est une passion, la gastronomie, avant tout. Puis de faire passer ce que je dis dans l'article aussi, c'est que de faire, on est rendu à une époque où je pense qu'il faut que les gens acceptent que là, il faut qu'on mette de l'avant les gens qui travaillent pour nous, qu'on leur fasse attention et puis qu'on change la mentalité qu'il y a derrière tout ça.
Mais c'est intéressant parce que on a souvent parlé, vous avez déjà pris des positions publiques là, en disant faut payer notre monde correctement.
Oui.
Puis c'est pas vrai que il faut les exploiter puis que ils vont partir puis
oui.
C'est bon. Et la pandémie a peut-être amené ça aussi, de voir des gens là, dire, t'as peu, là, le chef, je le paye combien, puis
oui.
le sommelier, je le paye combien. Puis tout ça fait qu'il y a un prix total à payer, comme on le disait tantôt,
oui.
là, il y a un coût réel à ça.
Oui, il y a des coûts réels, puis ça fait des années que les salaires en cuisine n'ont pas vraiment augmenté. Les conditions de travail, oui. Là, je reçois beaucoup de messages face à l'article comme quoi c'est pas vrai que rien n'a changé. Oui, je l'avoue, les choses ont commencé à changer, mais... Il faut que ça change plus. Il faut vraiment s'occuper de ces employés-là parce que sinon, la crise va être... La crise, on voit le top de l'iceberg en ce moment, mais dans quelques années, s'il n'y a plus personne qui va à l'école, en fait, s'il y a moins d'intérêt pour aller dans les écoles culinaires parce qu'on ne voit pas vraiment d'avenir à ça ou on voit des conditions...
Ben justement, il y a un auditeur qui m'écrit, je regardais ça, qui
oui.
dit que l'Institut d'hôtellerie du Québec, la clientèle, le nombre d'étudiants a baissé, paraît-il.
Oui, absolument, le nombre d'étudiants a baissé, le nombre de gradués a baissé aussi, puis il y a beaucoup de monde qui vont étudier là-dedans, qui sortent, puis qui réalisent hey, « Wow, là, moi, j'ai-tu envie vraiment de vivre ça? » De vivre, de toujours être stressé, endetté, de devoir courir un peu partout, de travailler des heures qui n'ont pas de bon sens. Donc, c'est temps profitons de l'arrêt qu'on a eu, puis changeons.
Ouais,
là.
Montréal a créé l'Office de la gastronomie.
Oui.
Vous me dites ça avec un...
Mais non, mais c'est parce que, je veux dire, les mots qui ont été utilisés dans le rayonnement, dans cet office de la gastronomie-là, c'est le rayonnement à l'international. C'est quelque chose, moi, la première fois que j'ai entendu parler du rayonnement de Montréal gastronomique à l'international, c'est ça doit faire 15-16 ans avec Jean-Pierre Curta dans un CA pour Montréal en lumière, où est-ce que c'était à l'époque, c'était présent, c'était là, il avait déjà cet engouement-là pour le Montréal gastronomique, le rayonnement à l'international. Donc, je trouve juste que d'arriver 10 ans, 10-15 ans après, avec une solution dans une crise, de donner de l'argent pour faire rayonner une ville qui rayonne déjà comme étant là où la deuxième ville gastronomique en Amérique du Nord, avec ça se partage entre New York, puis tu sais, ça partage un peu, mais ça reste, est-ce qu'on avait vraiment besoin de leur mettre ça à la carte? Les touristes, ils viennent pas parce qu'ils veulent pas, ils viennent pas parce qu'en ce moment, il y a la pandémie, c'est plus dur, c'est pas une question de nous faire de la publicité qui va nous aider. Puis je pense que cet argent-là, ben on en a besoin d'une façon beaucoup plus réaliste. Il est temps qu'on s'attarde à nos cas chacun précisément puis qu'on dise regarde toi ça t'a affecté comme ça, si on peut t'aider, comment on peut le faire, tu sais, puis d'avoir des aides directes.
Est-ce que c'est juste un mauvais moment à passer, puis quand les barrières sanitaires vont être un petit peu abaissées, les gens vont venir, puis la vie va reprendre comme avant?
Ben, je l'espère, mais tu sais, à quel point ça va, combien de temps ça va prendre, puis oui, c'est un dur moment à passer, c'est le fun quand on sait qu'il va y avoir une fin à un dur moment, mais là, en ce moment, on le sait pas. Est-ce que ça va être dans quelques mois, quelques années? Combien de temps ça va prendre pour que la vie reprenne pour vrai? J'ai mon questionnement. Fait que si nous, on est pour rouler de la façon qu'on roule en ce moment, puis d'espérer avoir... Tu sais, là, c'est bon, on a beaucoup de réservations, mais dans 6 mois, ça va être comment? Il faut... Un modèle d'affaires d'un restaurant, c'est jamais... Peut-être tu fais en temps et temps. Il faut que tu dises, moi, j'ai 35 places... Faut que j'assoie 35 personnes à tous les soirs. Puis là, malheureusement, il y a toujours le fameux phénomène d'annulation qui est très, 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 très présent.
Encore,
malheureusement.
Ça me dépasse.
Mais tu sais, c'est que d'une certaine façon, on peut pas vraiment... Tu sais, les gens qui annulent 48 heures ou 24 heures à l'avance, c'est bon, ils ont annulé, ils l'ont dit. Mais moi, c'est déjà dur d'avoir une réservation chez nous. Fait que c'est rare que les gens vont voir la journée même ou la journée... Fait que des fois, ça peut faire que, bon, on est passé de 35 clients à 18 en une soirée. Puis moi, je peux pas... Il y a des sites là que je pourrais payer qui mettraient ça à rabais. Puis que... Mais je trouve qu'à un moment donné, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour...
Mais est-ce que c'est pas tentant d'avoir, je dirais pas une liste noire, là, mais de
ouais.
dire quelqu'un qui, mettons, là, réserve, ne se présente pas, n'a même pas appelé,
oui.
puis qu'ils rappellent deux semaines après pour réserver, ça va être...
Mais ça, moi, c'est pas quelque chose vraiment que je suis pas vraiment pour cette liste noire-là. Moi, je suis plus pour qu'on aille de l'avant puis qu'on... On nous aide à créer un système où est-ce qu'on va pouvoir faire payer les gens d'avance. Je sais qu'il y a plusieurs restaurants qui le font, mais chacun a sa technique et chacun a payé cher d'avocats pour être sûr que t'as le droit de faire ça. Parce que théoriquement, on n'a pas le droit de faire payer des gens d'avance pour de la nourriture. C'est la loi. Faut que la nourriture soit donnée avant qu'ils payent. En tout cas. Donc, déjà, si on était capable de faire un système clair, facile et que les gens adhèrent à ce système-là. Parce que là, Si ça coûte 100$ faire une réservation, mais que si tu viens pas, tu perds ton 100$, ben là, ça se peut qu'on ait bien moins de réservations parce qu'il y a plein de monde qui réserve. Moi, j'appelle ça un peu le phénomène Amazon. Tu sais, les gens qui prennent un verre de vin, qui vont sur Amazon puis qui commandent du linge. Puis
qui remplissent le panier.
Ben c'est ça. Puis là, ils l'oublient. Puis là, le lendemain matin, ils voient ça. Bon, mais il y a plein de monde qui réserve puis qui l'oublie. Des fois, on appelle les gens vraiment à 48 heures à l'avance puis on s'assure vraiment. Puis souvent, les gens disent hey, « on avait oublié ». Mais oui, mais tu sais... Pour nous, ce petit truc-là, pour nous, peut découler en des pertes qui valent au-dessus de 1 000 $, 1 500 $.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Ben, écoutez, j'ai commencé avec mon équipe, on a commencé à regarder, j'ai parlé à plusieurs restaurateurs, donc, qui ont commencé aussi à faire ce système-là. On va trouver une solution pour nous, pour le Mousseau. Puis, je pense que, bon, j'ai pas à me... Je veux dire, on me connaît comme ça. Je veux dire, quand j'essaye quelque chose, je le fais, je le mets sur la table, je l'assume. Fait que moi, je suis prêt à assumer ça. À dire, écoutez, tu veux faire une réservation? Si t'es pas sûr au moment que t'as face, ben, je suis désolé, ça se peut que ça te coûte 100$ si tu viens pas. Puis, tu sais, de pas charger au complet, mais juste de charger. Moi, j'ai 90 places. C'est-à-dire, je fais 90 personnes par semaine, en moyenne. Entre 90 et 105. Si je sais que j'ai 105 personnes cette semaine, puis que je commande 105 homards, parce qu'il y a un homard par personne dans mon menu, ben, si j'ai 15-20 personnes qui viennent pas, j'ai 15-20 homards qui restent dans mon frigo. C'est bien beau manger du homard le dimanche, mais il me coûte cher en crime, mon homard. Tu sais, fait que c'est pas... Ce que je veux, c'est que les gens comprennent que pour ma réalité à moi, on parle du Mousseau ici. Oui. Je veux pas mettre...
Non, non, vous êtes pas du porte-parole de l'industrie.
Non, je suis porte-parole de moi-même. Puis je suis quelqu'un qui a une grande gueule puis qui aime dire les vraies choses. Puis j'aime qu'on comprenne que... Écoutez, avec tous les beaux mots que j'ai du monde qui viennent, là. J'ai quelqu'un qui est venu il y a pas longtemps qui dit, moi, j'ai voyagé partout dans le monde. Je mange dans tous les étoilés, puis il dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu une expérience comme ça. Puis il me dit, c'est ridicule le prix. Puis il savait parce que bon, j'avais parlé du prix. J'en parle pendant mon repas spectacle maintenant qu'on peut appeler un peu. Je l'explique aux gens. Puis le monsieur m'a dit, mais c'est ridicule, t'es encore pas assez cher. Fait que, tu sais, je veux faire avancer les choses petit à petit. Je veux que les gens s'adaptent. Fait que je choque un peu, mais en même temps, je laisse aux gens un temps d'adaptation. Puis ceux qui me disent, ben moi, je viendrai pas manger chez vous, c'est trop cher. Je veux dire, je suis désolé pour vous. Il y en a plein d'autres des bons restaurants que vous pouvez encourager, qui vont rentrer dans votre budget. Allez les encourager eux autres. Moi, j'appelle pas chez Lamborghini Côte-Vertu pour dire, hey, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter une Lamborghini. Je fais juste pas le faire. Je veux dire, si j'en ai les moyens un jour, je le ferai, mais je veux pas. Le but, c'est pas pour tout le monde. C'est une question de... C'est un événement. Je veux que les gens comprennent qu'en venant chez nous, tu viens pas si tu veux parler à quelqu'un sérieusement. On va te couper à chaque 2 secondes pendant qu'on amène un plat puis te l'expliquer. Puis c'est une expérience, c'est un show qu'on donne. Fait que moi, je parle pour moi. Je suis là maintenant. J'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert mes pensées. Je l'ai dit à tout le monde très haut et fort. Qu'est-ce que je revendique? Pour moi, ceux qui me suivent, me suivent. Ceux qui m'aiment pas, m'aimeront pas. Ça changera rien, hein, tu sais. Moi, le but, c'est que je continue à être en quête d'une belle vie. C'est tout. C'est ce que je veux. Je veux que mes employés aient une belle vie. Je veux que moi, j'aie une belle vie. Je veux avoir du temps pour faire mes autres passions. Je veux que mes employés aient du temps pour vivre avec leur famille. S'il y en a un qui va avoir un enfant dans pas long, le fait qu'il travaille 3 jours, 3 grosses journées plus une petite journée, il y a 3 jours de congé pour être avec sa famille. Ça doit devenir maintenant une règle officielle de faire attention à ses employés dans le milieu de la restauration, autant qu'on fait attention aux gens dans plein d'autres domaines. Il y a des domaines encore où il y a de l'exploitation, là. Mais on a vu les changements dans les dernières années, comment c'est important de prendre soin des gens avec qui on travaille, de les écouter, de leur donner ce qu'ils veulent et de pas les brûler. On a fait ça dans plein de domaines. Ben, maintenant, c'est le temps qu'on réalise qu'en restauration, il faut le faire aussi. Ça va venir avec des coûts. La bonne nouvelle, c'est que la bonne nourriture et les bons ingrédients sont maintenant plus accessibles pour tout le monde. Apprenez à mieux cuisiner à la maison et quand vous sortez, sortez mieux. Sortez moins, mais sortez mieux.
Merci beaucoup d'être venu.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Antonin Mousseau-Rivard.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Jeannette Bertrand nous propose ce matin son nouveau roman, le titre « Un homme, tout simplement ». C'est dans la foulée de ses romans précédents. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas juste une description de comportement, mais c'est une recherche de solutions aussi pour trouver des façons d'améliorer les relations, les rapports entre les hommes et les femmes. Jeannette, bonjour.
Oui, Paul. Oh, vous avez tout compris. Ça me surprend pas, remarque.
Non, mais j'ai trouvé ça parce que j'avais entendu parler vaguement de la justice réparatrice.
Oui.
Et là, j'ai découvert ce que c'était, dans quel contexte ça pouvait s'appliquer. Oui. Et là, je rappelle quand même votre personnage, Laurent, qui est accusé d'agression sexuelle.
Oui,
Son ex-amoureuse qui a déposé la plainte. Puis elle est un peu tiraillée, comme souvent ça arrive.
Oui, parce que c'est, dans le viol ordinaire, c'est un viol avec des gens qu'on aime, avec des épouses, des maîtresses, des blondes. Alors c'est pas la même chose là, tu sais. C'est pas un viol par un étranger qui passe là. Alors ça demande parfois la justice réparatrice. C'est extraordinaire.
Comment vous pourriez définir pour que les gens comprennent là, qu'est-ce que c'est que la justice réparatrice, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? Bon,
d'abord, Paul, je sais pas si vous l'avez vu, on a copié ça des Autochtones.
Oui.
Depuis toujours, c'est leur justice. C'est-à-dire que t'as fait un tort, t'as commis quelque chose qui a fait tort à quelqu'un. Avec un médiateur ou une médiatrice, tu rencontres cette personne-là et les deux vont s'entendre pour réparer.
Mais dans le cas qui est dans le roman, la victime s'attend à quoi? Elle veut quoi de son chum?
À qu'il ne refasse plus ça à personne. Qu'il comprenne, qu'il admette que c'est une faute. Juste admettre, ça fait du bien. Mes sources me disent que cette façon-là de faire, les deux personnes sortent de là contents.
Dans le roman, on voit différents types d'hommes. Bon, bien sûr, Laurent l'accusé, la relation assez tordue qu'il a avec son père, les réflexes de l'homme de cette génération, les amis de Laurent, il y a différents profils là-dedans.
Mm-hmm.
Est-ce que il y a 20 ans, imaginer des hommes accepter de participer à la justice réparatrice aurait été envisageable?
Je pense pas. Même si, s'il y a 20 ans, Guy Corneau avait inventé les groupes d'hommes. Guy Corneau, qui était mon ami, et je l'ai invité souvent dans mes émissions, parce que c'était nouveau et que ça marchait. Les hommes ont de la misère à aller voir des psychologues. Ils ont de la misère à se montrer vulnérables à d'autres personnes en autorité. Mais entre eux, ils sont capables de parler. Paul, j'ai assisté à des groupes d'hommes pour que je sois capable d'en parler. Ils se retrouvent entre eux à dire juste comment ça va pas bien, et puis dire pourquoi ça va pas bien. C'est fantastique, ces groupes d'hommes. Il y en a partout au Québec, et c'est pas connu, et c'est pas subventionné.
J'aimerais vous entendre sur, comment dirais-je, comment vont les hommes en 2021, vous avez connu plusieurs générations d'hommes.
Oui.
Comment vont-ils? Trouvez-vous que ça s'améliore?
Oui, ça s'améliore. Mais le patriarcat, là, pourquoi les hommes restent là-dedans? C'est qu'il y a des avantages. Tu as des avantages à être gros et fort. Je parle pas des hommes. Ils élèvent la voix. Tout de suite, on a peur. On a été, nous autres aussi, on est conditionnés à avoir peur des hommes. C'est ça les avantages du patriarcat, c'est de faire peur. Et comment laisser ça et montrer ta vulnérabilité à ta blonde? C'est difficile à faire, ça. C'est très difficile parce qu'ils ont été programmés comme nous, on a été programmés. Alors, il faut défaire ça. Et les hommes, les femmes, on est allés très vite là-dedans. Les hommes n'ont pas suivi parce qu'il y a trop d'avantages. Nous autres, on n'avait pas avantage à rester où est-ce qu'on était. Pas d'âme, puis pas d'argent, puis pas le droit d'avoir un compte en banque et tout ça. Tu sais, on a changé, ils n'ont pas suivi.
Mais il y a quand même encore, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'on a vu les cas de féminicide au Québec cette année. Ça veut dire qu'il y a des hommes...
Il y a des hommes qui n'acceptent pas de perdre les privilèges. C'est moi le boss, c'est moi qui ai ta vie en main. Et si tu pars, je te tue. C'est ça. Écoute, s'il n'y en avait pas de féminicide, on ne pourrait pas... Tu sais, mes livres ne serviraient à rien. Mais il y a des... Mais combien d'hommes veulent tuer et ne le font pas? Parce que ça se fait pas. C'est pas tout le monde là, qui a à ce point peur de perdre sa place qui va tuer. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des féminicides. C'est que les femmes sont devenues indépendantes. Leur glisse des doigts. Et les hommes ont la frousse. Alors, ils se servent de quoi? De leur force.
À chaque fois qu'on aborde le sujet, puis surtout avec toi, Jeannette, là, j'ai des hommes qui m'écrivent pour me dire « Oui, mais vous parlez pas du contrôle exercé par les femmes, la domination psychologique, pas physique, bien sûr, mais cette espèce de... »
Si les femmes se mettent à tuer des hommes, je pense qu'on va se remettre en question, mais ça n'arrive pas. C'est pas nous autres, Paul, qui a tué les femmes à la Polytechnique. C'est pas des femmes qui ont fait ça, qui sont allées dans une école de filles, de gars, puis qui ont tiré. Écoute, c'est pas nous autres, ça. Alors, tu sais, c'est nous autres qui sommes tués, qui n'arriveront pas à prouver quand on subit un viol, on n'arrive pas à être cru. Tu sais, écoute, là, on a quelque chose à revendiquer, je pense.
Je vais te poser une question, puis sens-toi très libre de répondre. Quand j'ai vu le documentaire, puis on avait suivi l'histoire de Léa Clermont-Dion, où elle raconte qu'elle est allée se confier à Lise Payette, qui est une figure de proue du féminisme, et que Lise Payette l'a trahie, lui a conseillé de ne pas porter plainte. Ouais. Et là, je me mets à la place d'une jeune femme qui voit une de ses idoles lui dire de ne pas faire ça.
C'est terrible. Mais je comprends la seule excuse que je peux donner à Lise, que j'ai connue très bien, c'est qu'elle avait l'amitié au-dessus de tout. Et elle a défendu un ami, quitte à passer par-dessus ses principes. Je peux comprendre cette chose-là, que cette façon-là, ce qu'elle avait fait d'ailleurs avec Jutras, qu'elle a défendu aussi parce qu'elle l'aimait beaucoup. C'est une femme qui, quand elle aimait quelqu'un, elle l'aimait pour le défendre.
Jeannette, t'as toujours des choses à dire. C'est impressionnant. Je suis convaincue que tu travailles à un autre livre.
Oui, je fais toujours ça. Quand un est fini, je commence un autre. Mais oui, mais là, je vais te dire quelque chose, j'ai fini. Je ne parle plus d'égalité entre hommes et femmes.
Tu vas parler de quoi?
Qui s'arrange.
Qui s'arrange?
Non, qui ne s'arrange pas. J'ai beaucoup d'espoir. Je vais te dire une chose. Écoute, j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai des petits-fils qui ont 40 ans, 35 ans et qui sont des pères extraordinaires. Et ça, c'est nouveau. Les hommes ont compris, parce que leurs femmes étaient au travail, qu'ils n'étaient pas les gardiens de leurs enfants, c'était à eux autres, les enfants. Puis ils s'en occupent, puis ils aiment ça. Et ça, je pense que c'est une avancée extraordinaire.
Jeannette, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin.
Paul, c'est toujours le fun de se rencontrer, nous deux. Hein?
Ah!
Eh, mon Dieu! Qu'on en aurait à dire!
On pourrait jaser des heures. Merci, Jeannette.
Bye,
prends soin de toi. Jeannette Bertrand, le titre du livre « Un homme, tout simplement ».
C'est 23.